moi, je t'ai connu via LinkedIn avec et Instagram, évidemment, avec tous les posts que tu fais. Et donc, j'aimerais en savoir plus sur tes activités.
Hello Flore, ben déjà merci de me donner l'opportunité de m'exprimer dans ton podcast. Et ben écoute, on y va, go, tu veux que je commence par quoi?
Alors moi, je veux bien que tu commences par la partie wedding planner classique et ensuite on abordera le sujet qui m'intéresse le plus, les formations que tu proposes.
Ça marche. Eh bien, moi, je me suis lancée début 2022 en tant que wedding planner. Je viens d'un monde qui est quand même assez différent, qui a pas grand-chose à voir avec l'organisation de mariage, puisque avant j'étais commerciale dans la publicité, donc commerciale pour une régie pub, donc vraiment rien à voir. Enfin, on peut avoir l'impression de prime abord que ça n'a rien à voir, mais finalement, quand je me suis lancée, je me suis rendu compte que tout mon background était vraiment super utile dans mon métier, puisque wedding planner, c'est pas simplement aller à des essayages de robes de mariée et manger des petits fours. C'est aussi et surtout accompagner les futurs mariés dans le choix de leur prestataire, donc avec des négociations potentiellement, vérifier que tout est au carré dans les devis, choisir vraiment les meilleures prestations pour eux par rapport à leurs envies. Donc ça m'a beaucoup servi en fait d'avoir tout cet historique de commercial avec tout ce que ça implique en gestion de projet, en relation client, en relation prestataire, etc. Donc je me suis reconvertie en 2022 et j'en suis à ma troisième saison. Là sur 2024, j'attaque la troisième saison.
Alors moi, la question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est pourquoi wedding planner?
Alors, tu sais quoi? Je crois que j'ai pas de réponse. Je crois que j'aurais pas de réponse à cette question. Pourquoi wedding planner? Alors, il y a très longtemps, j'avais fait un stage très court chez La Mariée aux pieds nus, qui est devenue une très grande blogueuse. Et j'avais beaucoup aimé en fait l'approche très romantique qu'elle avait par rapport au mariage, enfin romantique. Et alternative aussi, parce qu'en fait, elle a créé un salon qui s'appelle La Love, etc. Et le jour du salon, j'étais en stage avec elle pour la première ou la deuxième édition, je me souviens plus. Mais en tout cas, ça m'avait marqué de me dire, mais en fait, un mariage, c'est pas juste quelque chose de classique avec toujours les mêmes codes. Je me suis rendu compte qu'en fait, les gens pouvaient aussi faire des mariages un petit peu différents, un petit peu alternatifs. Et j'avais beaucoup aimé ce salon. Ça, c'était il y a très longtemps. Je pense que ça remonte à il y a au moins 13 ou 14 ans. J'étais encore en train de faire mes études, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Mais en fait, j'avais laissé, donc j'avais fait ce stage et puis j'avais un peu laissé tomber. Je suis partie dans ma carrière communication, publicité. Et puis j'ai eu mon fils en 2020, mon petit bébé Covid, qui évidemment a tout chamboulé comme pour tous les parents, hein. Je pense que la parentalité est souvent un grand déclencheur de reconversion professionnelle, surtout chez les mamans. Et quand j'ai eu mon fils, on était en plein confinement. Donc j'ai décidé de. Enfin, ça a tout remis en question et j'ai décidé de changer complètement de voie et de vie. On était à Strasbourg à l'époque. Mon compagnon travaillait là-bas. Il a demandé à être muté pour pouvoir simplement changer de vie. Hein. On s'est dit, tiens, est-ce qu'on n'a pas envie un petit peu de faire des folies? Voilà, donc il a demandé sa mutation à Bordeaux. Donc à Bordeaux, parce qu'on trouvait que le sud-ouest était sympa, hein, tout simplement. Pas particulièrement de projet particulier sur Bordeaux, mais on avait envie de découvrir la région. Il a demandé sa mutation et 2 mois plus tard, alors qu'on s'y attendait pas, il a été muté. Donc on a dû faire les cartons, vendre la maison à toute vitesse. C'était une période un peu chargée. Et on s'est retrouvés ici et je me suis dit, ok, là. Tu vas pas retrouver un job salarié, tu as toujours eu envie d'être auto-entrepreneur, enfin d'être entrepreneur. Ça, je tiens quand même ça pas mal de mon éducation parce que j'ai eu des parents salariés toute leur vie et mon papa était toujours à me dire que eh ben, pour être bien dans la vie, il fallait être son propre patron. Donc du coup, c'est resté ancré en moi et puis je pense que j'ai la personnalité qui va avec aussi. J'ai besoin d'indépendance, j'ai besoin de pouvoir me gérer moi-même. C'est pas que j'aime pas rendre des comptes parce que finalement, quand tu es entrepreneur, tu rends des comptes et à tes clients et à toi, mais c'est pas pareil. Donc à ce moment-là, quand on est arrivé à Bordeaux, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais bien pouvoir faire? Et wedding planner, je sais pas, ça m'est venu en me souvenant de ce stage que j'avais fait et puis en me disant finalement toutes les compétences de gestion de projet, de relations clients, etc. que tu as eues, à quoi tu pourrais les appliquer pour que ce soit un métier qui ressemble à ce que tu as fait avant, mais pour que ça ait plus de sens et que ça puisse aider les gens. Parce que j'étais quand même dans une certaine quête de sens aussi à ce moment-là, professionnellement parlant. Donc voilà comment ça s'est passé, voilà pourquoi wedding planner. Et je me suis donc lancée début 2022. J'ai fait ma première saison 2022 avec 5 mariages. Donc j'ai eu de la chance parce que ça a quand même bien fonctionné. J'ai fait surtout des coordinations jour J en 2022. Enfin, j'ai fait que des coordinations jour J. Et ça a bien, ça m'a beaucoup plu en fait. Dès le départ, dès le premier mariage, j'ai adoré ça. Mon premier mariage, je l'ai fait gratuitement. Pour me lancer, j'ai lancé une bouteille à la mer sur Facebook dans un groupe en fait de futurs mariés du Sud-Ouest et j'ai expliqué, j'ai dit voilà, je me lance, ce sera mon premier mariage, je vous propose de vous offrir la coordination jour J. Il fallait que je me mette le pied à l'étrier, si tu veux, c'était important pour moi de pouvoir
Découvrir le terrain.
découvrir le terrain et puis tu sais, t'as moins de pression. Forcément, tu te dis, les clients ne payent pas, donc forcément, s'il y a quoi que ce soit, au pire, c'est moins grave. Et puis, j'ai eu une chance énorme parce que je suis tombée sur un couple incroyable, Audrey et Nathanaël, qui m'ont donné l'opportunité de coordonner leur mariage. Donc, on a fait tout le travail en amont, encore plus que ce que j'aurais fait sur une coordination classique. Je les ai vraiment accompagnés sur les 4-5 derniers mois de l'organisation. Enfin, on a fait plein, plein de choses ensemble. C'était génial. En plus, on s'entendait vraiment très, très bien. C'était un couple adorable. Leur mariage a eu lieu au Château Gassy, donc, qui est l'un des, si ce n'est le plus beau, enfin l'un des plus beaux en tout cas, châteaux autour de Bordeaux, avec des prestataires juste de dingue, un traiteur génial, un DJ génial, un photographe au top aussi. Et donc en fait, moi j'avais aucune idée de la chance que j'avais, du diamant que j'avais entre mes mains, si tu veux. C'est vraiment, tu vois, des fois on dit, il n'y a pas de chance, il n'y a que du travail. Là, pour le coup, j'aurais pu tomber sur un mariage, enfin, j'aurais rien pu y faire. J'ai eu 7 propositions et 7 propositions uniquement. Bizarrement, j'offrais une coordination, mais il n'y a pas eu tant de demandes que ça. J'ai eu que 7 propositions d'Audrey. Et alors, quand elle m'a expliqué son mariage, je me suis dit, bon, elle me donne le nom du château, Château Gassy, ok. Finalement, j'arrive pour faire une visite technique. Et là, je me dis, mais en fait, c'est un mariage de ouf, quoi. Donc, j'étais hyper contente. Et donc, j'ai travaillé avec eux sur les derniers mois. Et j'ai adoré cette période de préparation. Et le jour J, c'est juste, je pense, un des souvenirs qui restera le plus dans ma mémoire parce que. Bah, c'était incroyable, quoi. C'était magnifique. Tu vois, rien que d'en reparler, j'ai les poils. C'est vraiment, en fait, ton jour J, c'est l'accomplissement de tout ce que tu as fait avant. Et c'est aussi être le témoin de l'amour des mariés. Donc, quand tu as passé des mois avec eux, ça fait aussi quelque chose quand même de se retrouver face à eux qui se disent oui avec tous leurs amis. Et puis, en plus, ils avaient une bande de copains et de témoins qui étaient juste dingues. Donc, bref. Meilleur mariage, meilleur premier mariage ever, quoi. Et donc, j'ai continué comme ça, j'ai décroché des contrats payants cette fois-ci, hein, je les ai pas tous faits gratuits quand même. Et je me suis rendu compte fin 2022, j'avais déjà pris des engagements sur des coordinations pour 2023. Fin 2022, je me suis rendu compte quand même que la coordination jour J, c'est particulier parce qu'en fait, tu te débarques. Donc, je reprécise quand même pour les personnes qui nous écoutent, la coordination jour J, c'est simplement venir quelques semaines avant le mariage, quelques mois, finaliser avec les mariés et être là le jour J pour coordonner les différents prestataires. Donc, ça veut dire que en comparaison avec l'organisation complète du mariage que font la plupart des wedding planners, bah, t'as pas tout ce truc de pouvoir présenter tes prestataires à toi, proposer une équipe en qui t'as totalement confiance. Donc, je me suis rendu compte fin 2022 que j'allais probablement arrêter les coordinations parce que c'est moins sympa. Tu débarques dans une organisation qui est déjà faite, avec des prestats qui ont déjà été choisis. Et j'ai eu des expériences où tu te rends compte que les prestats choisis n'étaient pas forcément hyper pro et que ça peut poser des problèmes. Donc, j'ai dit stop aux coordinations jour J. J'ai fait en 2023 celles sur lesquelles je m'étais engagée. J'ai fait aussi des organisations complètes. Donc 2023, ça a été l'année de mes premiers jours J d'organisation complète, donc de mariage que j'avais vraiment organisé de A à Z avec les mariés. Et bah, génial, quoi. Et là, ça a vraiment confirmé sur 2023 que je voulais faire que de l'orga complète. Parce que bah, c'est ton projet en même temps avec les mariés. Enfin, tu vois, tu as vraiment une cohérence dans l'équipe de prestataires. Tu as une confiance qui s'installe. Et il faut le dire, vraiment, enfin, y a un truc sur lequel, sur les réseaux, j'en parle tout le temps. La réussite de ton mariage, elle passe aussi par la team de prestataires que tu as choisi. C'est-à-dire que si tous tes prestataires ont confiance les uns en les autres, si en plus c'est un bonus, s'ils ont déjà travaillé ensemble, qu'ils savent comment fonctionnent les uns les autres, c'est 90% de la réussite de ton mariage. On a souvent tendance à penser qu'en fait, ouais, tu choisis tes prestataires, ils vont venir faire leurs prestations, c'est annexe parce que bah, c'est pas le cœur du mariage. Le cœur du mariage, c'est l'engagement, c'est tes proches, etc. Mais en fait, c'est hyper important d'avoir des prestataires qui sont bah, qui apprécient de travailler ensemble, qui se connaissent et qui ont envie de faire plaisir aux mariés. Donc, la wedding planner, elle est aussi là pour faire le lien entre tout le monde et choisir les bons prestataires qui vont fitter, en fait, avec les envies des mariés, mais aussi avec leur personnalité, avec la typologie de mariage qu'ils ont choisi. Voilà, donc pour moi, c'est devenu une évidence que je ne ferai plus que des organisations complètes, et c'est ce sur quoi je suis, ce vers quoi je suis partie sur 2024. Donc 2024, on n'a que de l'orga complète, et 2025, on aura que de l'orga complète aussi, 2026 aussi, probablement. Donc voilà comment j'en suis venue à faire wedding planner, et du coup bah, j'ai été beaucoup plus loin dans mon explication, donc je laisse continuer.
Moi, la question que je me pose, c'est tu interviens où? Tu te limites à Gironde, Nouvelle-Aquitaine, ou encore plus loin?
Alors, j'ai une zone qui est celle de la Gironde et de la Dordogne, donc ça veut dire Bordeaux et alentour, Dordogne, toute la Dordogne. J'essaye de pas aller trop loin parce qu'en fait, après, je dois prendre des hôtels. Enfin, c'est plus compliqué. De toute façon, à plus de 30 minutes de la maison, je prends un hôtel parce que le jour J, c'est quand même compliqué après la journée qu'on a passée de rentrer et de faire une heure de route, tu vois. Mais je suis pas fermée. En fait, j'ai fait un mariage dans les Landes en 2023. J'ai été à Sainte en 2022. Enfin, voilà, je suis pas fermée. Il faut surtout que le projet m'emballe, que ça fit avec les mariés. Et à partir de là, je veux dire, voilà, s'il faut rajouter une nuit d'hôtel, on le fait, c'est pas un souci. Mais ma zone de base, ça va être la Gironde et la Dordogne, effectivement.
Alors, quand les mariés n'ont pas vraiment d'idées précises sur ce qu'ils veulent, toi, tu vas les orienter après avoir posé un questionnaire, je suppose, au niveau de la thématique, des couleurs, de ce qu'ils aiment?
Alors, tu vois, c'est marrant parce que t'as mis le doigt sur un truc. La thématique, les couleurs, la déco, tu vois, en fait, on pense souvent que l'organisation d'un mariage, ça va commencer par... Bah, c'est quoi votre thème, c'est quoi vos envies couleurs? En fait, moi, ça, je m'en fous. Je m'en fous complètement du thème, des couleurs. Au départ, c'est pas ça, en fait. Organiser un mariage, c'est pas ça. Et ça, je pense que c'est un peu une... C'est un peu quelque chose qui est dans l'imaginaire collectif, que la wedding planner, il y a un côté très très
déco,
alors avec tout ce que ça implique de glamour, de voilà. Bon, c'est pas ça la réalité. Et ça, toutes les wedding planners qui en vivent et qui le font pour de vrai, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup 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 de wedding planners, mais il y en a que quelques-unes en fait qui en vivent, hein. Il y en a beaucoup qui font ça avec un job à côté, etc. Celles qui en vivent vraiment, celles qui le font sérieusement, elles vont pas se focaliser tout de suite sur le thème du mariage, si tu veux. Elles vont dans tous les cas prendre le brief des clients, donc c'est-à-dire qu'une fois que tu as signé le contrat avec tes clients, tu vas commencer par rechercher les prestataires principaux, donc qui sont en premier lieu le lieu, c'est le cas de le dire, et en deuxième le traiteur. Parce que ça va te permettre en fait de déterminer le reste de budget que tu vas avoir pour les autres prestataires aussi. Donc tu prends le brief des mariés, Les mariés vont te dire, bah, nous, on veut un mariage sur une journée, on veut pas forcément d'hébergement. Bah, là, tu es sur une typologie de lieu particulière. S'ils te disent, bah, pour le coup, nous, on a envie de faire un grand week-end, 3 nuits dans un château avec pool party le vendredi, brunch avec un food truck le dimanche, là, tu es sur une autre typologie de mariage, donc avec un autre budget de mariage, clairement. Voilà, donc en fait, la priorité n'est pas sur le thème et sur la déco, elle est vraiment sur la typologie de mariage et déterminer le budget que tu vas pouvoir mettre dans ton mariage. Ça, normalement, quand tu fais un rendez-vous découverte avec des clients, ils ont quand même déjà une idée du budget qu'ils ont envie de mettre, de la fourchette de budget, ou en tout cas de la limite qu'ils n'ont pas envie de dépasser. Mais c'est d'ailleurs ce que j'aide les clients à faire quand je fais mes ateliers, les ateliers que je propose aux gens qui me suivent sur Instagram. Voilà, tu commences surtout par déterminer un budget, déterminer une typologie de mariage. Ensuite, tu vas chercher ton lieu. Ensuite, tu vas chercher ton traiteur. Et puis, tu commences comme ça, en fait, tes préparatifs. Donc, c'est vraiment axé la première partie sur quel genre de mariage vous voulez et chercher les prestataires qui vont avec ça. Et ensuite, bien évidemment, quand tu as eu ton coup de cœur sur ton lieu, ben, tu as forcément un thème qui te vient en tête parce que ça va s'accorder au lieu. Si tu es dans un beau château avec pierre apparente, poutre apparente, tu joues, en fait, tu travailles autour de ça pour créer une ambiance. Tu vas peut-être pas forcément faire un truc complètement déconnant par rapport à ce que tu as en lieu, quoi, comme style de lieu. Donc, tu pars surtout de là pour élaborer ensuite toute la partie décoration. Mais les mariés se prennent très, très souvent la tête sur, dès le départ, qu'est-ce que je vais faire comme déco ? La déco va me coûter cher. Alors qu'en réalité, moi, je constate quand même que sur les mariages que j'organise, la déco, elle se fait à 80% sur les fleurs. Donc, tu choisis les couleurs de fleurs qui vont aussi aller avec ton lieu. Tu vas avoir une arche pour ta cérémonie, tu vas avoir une arche, tu vas avoir des bords de banc, des compos, ce genre de choses. Pour ta réception, tu vas avoir tes centres de table. Tout ça va déterminer, en fait, ta déco. Les fleurs, c'est vraiment l'âme de la décoration d'un mariage. Après, bien évidemment, tu peux aller louer des petites choses de déco en plus, mais finalement, c'est pas quelque chose qui est... Ça fait pas forcément partie des priorités, en fait. De tes prestataires, de la typologie de mariage, tout ça va découler, en fait, naturellement, un style de déco et les couleurs que tu as envie de mettre dans tes fleurs et tout ça. Mais voilà, on commence pas par là.
Eh bien, entièrement d'accord avec toi, puisque nous, sur les anniversaires, c'est un peu pareil. Très souvent, les mamans nous donnent des thèmes qui sont des couleurs, etc. Et c'est pas là-dessus qu'on va faire nos scénarios. Le principal étant qu'ils s'amusent d'abord. Tu fais des mariages aussi bien pour français, anglais, italien, espagnol ?
Italien, espagnol, j'ai encore jamais eu. Non. En fait, je fais des mariages pour les Français. Je fais des mariages pour tous les couples qui ont envie de venir se marier en France et qu'ils soient de n'importe où. L'année dernière, j'ai eu un couple qui venait de Bali. Cette année, j'ai deux couples qui viennent de Londres et deux couples qui viennent des États-Unis. Alors, c'est peut-être parce que je parle anglais, donc du coup, les lieux me recommandent aussi par rapport à ça, parce que c'est quand même assez compliqué de trouver des prestataires qui parlent anglais. Qui veut vient ? C'est un peu ça. Toutes les personnes qui ont envie de venir se marier à Bordeaux, en Dordogne, dans la région en tout cas, peuvent venir et ont le droit à une super wedding planner qui leur organise un très beau mariage. Donc, ils peuvent venir de n'importe où.
Qu'est-ce qui est le plus compliqué ? C'est le mariage où il y a peu d'invités ou trop d'invités ?
Ah, je te dirais bien les deux, mon capitaine. En fait, quand tu as beaucoup d'invités, bah, évidemment, tu as toute la logistique qui va autour, qui fait que ça complique un petit peu les choses. Le plus gros mariage en nombre d'invités que j'ai fait, on avait 230 invités, dont 200 qui sont, un peu plus de 200 qui sont venus, donc par rapport à la liste de base, donc c'était déjà énorme. Et en fait, la liste d'invités et le nombre d'invités déterminent littéralement le budget que tu vas mettre dans ton mariage. Le lieu aussi, mais la partie nombre d'invités, ça va déterminer évidemment le prix du traiteur, puisque plus tu as de personnes à nourrir, plus tu multiplies le prix par tête, donc la liste d'invités pour le coup, si tu dois faire attention à ton budget, c'est compliqué d'inviter 200 ou 250 personnes ou plus parfois. Et les mariages en petit comité, moi je trouve ça génial, j'adore. Le seul truc, c'est qu'en fait, il faut avoir des lieux qui sont adaptés à des mariages en petit comité pour pas que ça fasse vide. En fait, c'est ça le défi. Donc si tu choisis un lieu qui a une grande salle avec 50 invités, tu vas être obligé de trouver des astuces pour combler un petit peu le, tu vois, pour rétrécir un petit peu l'espace dîner. Mais moi je suis une grande fan des mariages à peu d'invités. Alors peu d'invités, j'entends entre 50 et 75, on va dire, c'est du peu d'invités, plus petit mariage en petit comité. À partir de 75 jusqu'à 120, c'est ça, en fait, la moyenne, c'est ça.
C'est classique, ouais.
Classique. 75-80 à 120 personnes, c'est classique en nombre d'invités. Après, à partir de 120, ouais, tu commences à rentrer dans une logistique un petit peu différente.
Donc, au niveau des animations, est-ce que toi, tu délègues complètement cette partie avec un, deux ou trois prestataires qui font des propositions clés en main, sur mesure, etc. Ou est-ce que tu y ajoutes ta patte ?
Alors, ça dépend ce que tu entends par animation. Précise peut-être ce que tu entends par animation.
Bah, très souvent sur les mariages, on voit des pauses où il y a le PowerPoint classique, l'intervention de la tante. Donc comment tu gères tout ça, toi ?
Ouais.
Et est-ce que tu as des suggestions très personnalisées ?
Oui, alors ok. Oui, donc ta question, c'est pour les interventions pendant le dîner.
Oui, ou tout ce qui est animation.
Ouais, de la part en fait des proches, ouais. Des mariés. Ok. Oui, parce qu'animation, tu sais, on peut entendre soit animation enfant pour le coup,
ouais.
Soit un magicien, j'en sais rien, un cluedo géant ou que sais-je. Mais oui, les animations, pour moi, c'est, donc on parlait bien de la même chose. Les animations, ça va être les proches qui vont faire des choses pour les mariés. Donc ça peut être des discours, ça peut être des diaporamas photos pour retracer leur enfance, ça peut être des jeux pendant le dîner, ça peut être des chansons, ça peut être des danses, voilà. Donc, il peut y avoir plein de choses. Et alors, ce que je propose à mes mariés, c'est soit ils gardent la surprise et moi, je gère avec leurs invités, donc ils découvrent tout le jour J, en me donnant quand même leurs limites, si tu veux. Par exemple, j'ai des mariés qui veulent garder la surprise, mais qui me disent « diaporama photo, t'oublies tout de suite, tu dis non ». Tu dis qu'on refuse. Donc, soit ça se passe comme ça, soit les mariés eux-mêmes voient avec leurs invités qui a envie de faire quoi, si un tel a envie de faire un discours, et ensuite, ils me redonnent les infos. Là où c'est important, c'est qu'en fait, ton traiteur doit absolument savoir ce qui est prévu pendant le dîner. Ça, c'est juste indispensable, en fait.
Bah oui, les pauses.
Voilà, exactement. Donc, toi, en tant que wedding planner, tu dois venir caler les différentes interventions, les différents moments où il va se passer des choses entre l'entrée en salle et l'entrée, entre l'entrée et le plat, ce qui est fortement déconseillé quand même, parce que le plat est souvent quelque chose qui doit être servi chaud, cuit correctement. Donc entre l'entrée et le plat, c'est toujours un peu compliqué de mettre quelque chose. Mais entre le plat et le fromage et le dessert, après le dessert, etc. Là, après, tu peux laisser libre cours à la créativité de tes invités. Mais je fais toujours quand même attention à bien prévenir les mariés que au-delà d'un certain nombre d'interventions, ça devient très très compliqué, ça devient très très long. Je vais te donner un exemple d'une coordination jour J que j'ai fait où j'avais 14 interventions de proches. Et j'ai eu beau leur expliquer que ça allait être compliqué en fait et que ça allait vraiment faire traîner en longueur le dîner et que du coup, bon, c'est pas toujours agréable. Bon, ils ont pas forcément pris en compte mes recommandations, donc on a eu 14 interventions. Donc j'ai dû en mettre 7 pendant le vin d'honneur. Donc les mariés ont été sollicités tout le long en fait, entre des chants, des danses, des discours, etc. Même si c'était des petites interventions, si tu veux, ça casse toujours un peu le rythme. Pendant le vin d'honneur, en plus, les mariés aiment bien pouvoir discuter avec tout le monde, ils sont toujours un peu assaillis de toutes parts. Donc si tu rajoutes des interventions en plus à ce moment-là, c'est compliqué. Et on a eu 7 autres interventions pendant le dîner. Et à la fin, je voyais bien que les gens n'avaient qu'une envie, c'était d'aller danser. En plus, on était sur un groupe d'invités, mais qui n'avaient qu'une envie, c'était vraiment d'aller enflammer le dance floor. Et je les voyais, les pauvres, et c'était long, c'était long. Bref. Donc, un minimum d'interventions. Je recommande aux futurs mariés de vraiment demander à leurs invités de ne pas en faire trop. Et surtout, bah, de laisser la parole, entre guillemets, hein, de laisser intervenir les gens qui sont les plus proches. Donc, les parents, les frères, les sœurs, les témoins, les meilleurs amis, et de pas forcément autoriser cousin Jérémy à faire un truc, alors qu'en fait, cousin Jérémy, tu peux très bien aller dîner avec lui au resto et passer un petit moment en dehors du mariage, parce que c'est quand même très très limité en fait le temps que tu as sur un dîner. Et en plus de ça, ton traiteur, il est censé partir à une heure précise, hein, donc si tu fais traîner, tu peux avoir des heures supplémentaires, enfin, c'est forcément. Donc pour les interventions, je recommande, tu peux avoir un ou deux discours au vin d'honneur, et puis tu peux avoir, allez, on va dire, deux discours, un jeu, et puis un diaporama photo pour le dîner. C'est bien, ça c'est pas mal. Et puis tout prévoir en amont, faire un planning jour J, avec, d'ailleurs j'en ai un en téléchargement sur mon site, un modèle de planning jour J, qui peut aider les futurs mariés. Et là, en fait, tu vas inscrire toutes tes interventions. Quand t'as pas de wedding planner et que t'es futur marié, forcément, c'est toi qui va interroger tes proches. Donc, tu notes, en fait, qui va passer à quel moment, et tu fais ça avec ton traiteur. T'appelles ton traiteur 2 semaines avant le mariage, quand tout est calé, tu dis, voilà, j'ai un tel qui veut faire un discours, un diaporama, qu'est-ce qui est le mieux en termes de timing, par rapport à ce qui est prévu d'être servi en termes de plat, par exemple, par rapport aux cuissons, etc. Qu'est-ce qui vous arrange le mieux ? Parce que si ton traiteur ne sait pas ce qui va se passer, découvre qu'il y a un discours qui est en train de se passer et qu'il a son filet de canard qui est en train de mourir sur son assiette et qu'il ne peut pas servir parce qu'il y a un discours, alors là, ça peut vite, vite être la cata, quoi. Donc le planning avec ton traiteur pour les interventions, c'est hyper important.
Ok, bon, donc on a bien compris qu'en tant que wedding planner, de toute façon, tu verrouillais tout. Donc, comme tout le monde connaît à peu près le rôle du wedding planner, moi, ce que j'aimerais qu'on aborde, c'est tout le côté formation que tu proposes depuis peu, je crois. J'ai vu passer plein de conseils fort judicieux sur Insta, et je sais que tu fais des visios avec des petits groupes pour des ateliers. Donc, je te laisse la parole pour nous donner tous ces ateliers.
Top, bah écoute, merci de me laisser l'opportunité d'en parler. Ce qui s'est passé, c'est qu'au mois d'août dernier, j'ai commencé à poster des Reels sur Insta et avec des conseils. Mais j'en ai posté 3-4 et là, j'ai vu que ça explosait en fait. Et je me suis dit, mais purée, en fait, il y a énormément de futurs mariés qui ont besoin de ces conseils de pro, de wedding planner, de personnes qui ont l'habitude en fait de travailler dans le milieu du mariage. Parce que quand ils arrivent dans l'orga d'un mariage, tu vois, t'as la demande en mariage, t'as le moment « Ouh, trop bien !» et t'as après le truc de « Ah ouais, je vais devoir organiser tout ça, quoi. Je vais devoir organiser tout ça, je vais devoir faire attention au budget, je vais devoir ménager les susceptibilités des uns et des autres. » Enfin, il y a plein d'aspects comme ça. Et quand j'ai vu que ça marchait bien, je me suis dit « Ouais, il y a vraiment, en fait, une demande, quoi. Il y a vraiment un truc. » Et je me suis dit, c'est trop dommage parce que t'as environ, allez, ça a peut-être évolué quand même récemment, mais je sais pas, t'as peut-être 15% des futurs mariés qui font appel à une wedding planner. Parce que quand t'es sur place, t'organises toi-même ton mariage, t'as pas forcément besoin d'une wedding. Donc tous ces gens-là, tout le reste, comment ils font ? Je me suis dit, mais c'est fou parce que quand j'ai commencé à être wedding planner, j'ai découvert des trucs, je me suis dit, ouais, c'est un vrai métier quand même. Donc voilà, donc j'ai vu que ça commençait à marcher, j'ai continué à poster des reels avec plein de conseils, et j'ai ma communauté qui a grandi, enfin vraiment, je me suis dit, waouh, ah ouais, il y a un truc quoi, il y a un truc. Et donc, j'ai eu envie d'opérer cette petite bascule, en continuant bien évidemment à faire mes mariages en tant que wedding planner, parce que c'est mon cœur de métier, hein, clairement, puis tu peux pas aider les gens si t'es complètement déconnecté de la réalité du métier. Donc, bien évidemment, l'idée, c'est de continuer d'être wedding planner. Mais en parallèle, j'aimerais aider un maximum de couples qui n'ont pas de wedding planner avec différents supports, avec des infoproduits, en fait. J'ai commencé à vendre une première formation, qui est une formation pour organiser sa cérémonie laïque. Donc, en fait, qui s'adresse à tous les futurs mariés qui n'ont pas d'officiant professionnel. Et qui se disent, ok, j'ai, euh, J'ai mon meilleur pote qui va organiser ma cérémonie, enfin qui va officier à ma cérémonie. Par contre, ni lui ni nous, on ne sait ce qu'il faut faire, par quelles étapes faut passer, dans quel ordre on est censé mettre les trucs. Enfin, des fois, ça peut être vraiment, tu vois, c'est un gros problème qui se pose pour eux parce qu'ils n'ont aucune idée de comment faire les choses. Donc, je me suis dit, créer une formation avec mon expérience de wedding planner, pas d'officiante, moi je suis pas officiante, mais par contre, du coup, j'en ai vu un certain nombre de cérémonies. Donc, t'as quand même toujours une trame qui se détache et je me suis dit là, il faut pouvoir aider ces gens-là. Donc, j'ai créé cette formation que j'ai vendue, qui est toujours en vente d'ailleurs. Et puis là, j'ai développé récemment des ateliers. Donc, des ateliers qui. On a eu le premier là, cette semaine. Atelier pour le moment qui porte sur le budget de mariage. Donc, comment déterminer son budget de mariage, à partir de quoi, et comment répartir les différents postes de dépenses. Et bon, l'atelier qu'on a fait cette semaine, il était génial de chez génial. J'ai adoré le moment. Les couples qui étaient là ont adoré aussi. Donc c'était vraiment très très cool. Et on va réitérer l'expérience et peut-être qu'on fera d'autres ateliers sur d'autres sujets aussi. Ça restera à déterminer. Et puis, en fait, je suis flexible, si tu veux. Je discute beaucoup avec les gens sur Insta et ça me permet de savoir où sont leurs points de douleur, où sont leurs blocages, où est-ce qu'ils auraient besoin d'un coup de pouce. Et du coup, ça me permet d'en sortir des sujets à aborder, que ce soit dans des ateliers ou dans les carousels ou dans les Reels Insta. Voilà, donc j'ai fait beaucoup de Reels. Donc, en fait, j'ai acquis beaucoup de monde sur mon compte. Là, j'essaye de rentrer plus, encore plus loin, en fait, en relation avec eux, avec les stories, etc. Donc, c'est ce qui permet aussi de créer un vrai lien avec la communauté.
Alors moi, j'ai une question par rapport aux ateliers. Ils sont forcément en visio ou on peut avoir la formation uniquement, par exemple, l'acheter via un PDF?
Alors, les ateliers, c'est de la visio parce qu'en fait, il faut qu'il y ait ce côté un petit peu
interactif,
exactement. Alors, c'est pas dit que demain, je mettrai pas en vente pour peut-être, je sais pas, quelques euros, le replay de l'atelier pour ceux que ça intéresse et qui ne veulent pas venir en visio. Mais pour le moment, l'idée, c'est vraiment d'avoir des ateliers interactifs, donc que les gens puissent poser leurs questions en direct. L'idée, c'est de faire première partie où je leur déroule un petit peu le speech sur le budget, comment faire, etc. Et ensuite, on passe aux questions-réponses. D'ailleurs, j'ai bien constaté la dernière fois qu'on commence par le budget et en fait, au lieu de faire 1 heure, on a fait 2 heures et c'était génial. Et elles ont posé plein, plein, plein de questions sur d'autres choses, quoi. Si tu veux, on a parlé de l'horaire pour les photos de groupe, de comment faire son planning jour J. Enfin, voilà, c'est vraiment parti un peu dans tous les sens. Et c'est ça qui est bien, en fait, c'est qu'elles se sentaient suffisamment à l'aise pour pouvoir déborder du sujet. Et moi, j'ai adoré. Par contre, la formation cérémonie laïque, tu vois, c'est une formation que j'ai fait en me filmant avec un support PDF et ils ont tous les éléments sur une plateforme. Les futurs mariés achètent la formation, ils reçoivent le lien et ils peuvent suivre comme un cours en ligne. Mais là, pour le coup, c'est pas interactif. T'as vraiment tout qui est à dérouler et qui te permet de t'inspirer, en fait.
Ok. Et pour les ateliers, la fourchette de nombre de participants idéal, c'est quoi pour que ça soit intéressant, qu'il y ait des échanges, que ça puisse donner des idées aux uns et aux autres, mais qu'il n'y en ait pas trop pour que tu puisses répondre à tout le monde?
Ouais, alors ça, c'est encore quelque chose qui est en réflexion. Le dernier atelier, j'avais 5 participants pour 10 places, donc j'ai pas eu une participation idéale. À la suite de ça, j'ai eu plein de demandes pour refaire un atelier, donc je suis assez surprise. Mais j'ai quand même constaté qu'avec les 5 participants que j'avais, on avait beaucoup plus d'interactions. Enfin, on avait beaucoup d'interactions, donc je me demande si à 10, on peut avoir autant d'interactions. C'est un format, en fait, que je suis encore, évidemment, en train de tester, puisque...
Ça doit dépendre des groupes aussi, parce que s'il y a des gens qui sont plus ou moins avides de questions, enfin de réponses...
C'est ça, c'est qu'en fait, tu peux avoir 10 personnes qui te posent aucune question et 3 personnes qui sont hyper à l'aise et qui vont te poser plein de questions. Après, tu sens qu'au début, les questions viennent pas forcément. Et puis en fait, quand ça commence à se réchauffer un petit peu, là, tout le monde a plein de questions. Mais 10 participants, ce sera peut-être trop. Je vais tester et puis on va voir.
Au niveau des horaires, ces ateliers, ils vont se dérouler systématiquement l'après-midi, en soirée, ou c'est défini, l'horaire est défini en fonction des participants après un petit sondage?
Bah, là encore, on est dans la phase de test parce que le dernier atelier a eu moins de participants que prévu puisqu'on était à 5 sur 10. Et après coup, je t'ai dit, j'ai eu des messages en fait qui me demandaient de réitérer l'expérience, notamment parce que là, l'horaire, c'était 18h30, 19h30, un mercredi soir. Donc, si tu veux, t'avais tous ceux qui étaient encore au boulot, t'avais tous ceux qui étaient dans le tunnel du soir, bain biberon, histoire que je connais très bien, donc bon voilà, j'aurais pu m'en douter, donc qui n'ont pas pu assister. Donc là, je vais tester pour la prochaine session de le faire entre midi et deux, parce que je me dis potentiellement là, on aura un petit peu plus de personnes qui pourront se rendre disponibles. Mais c'est difficile parce qu'en fait, que ce soit le soir, en fait du moment où t'as des enfants déjà, c'est le soir, le week-end, ça reste compliqué, donc c'est peut-être plus entre midi et deux. Pour les personnes qui n'ont pas d'enfants, ce sera peut-être plus facile le week-end, mais voilà, si tu veux, il faut que je teste les différentes possibilités.
Toi, je suppose que tu as déjà fait plus ou moins la liste de tous les sujets que tu pourrais aborder via des ateliers. Est-ce qu'on peut avoir un scoop en connaissant quelques intitulés des futurs ateliers qui seront proposés bientôt sur Insta?
Alors, pour le moment, je me concentre sur la partie budget parce que je sens qu'il y a un vrai truc. Si tu veux, j'ai commencé par ça parce que j'avais
fait...
C'est le nerf de la guerre. J'avais fait un petit sondage, tout le monde avait répondu le budget. Le deuxième qui était pas mal venu, c'était la déco. Donc tu vois, dans la même logique que ce que je te disais tout à l'heure, la déco, c'est un truc où les futurs mariés se disent « Oh là 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 là, comment je vais faire, quelle galère, j'ai pas d'idée, etc. » Alors que finalement, l'idée, c'est un peu de les décomplexer aussi par rapport à ça. Et le troisième, c'était comment préparer son jour J. Donc avec le planning jour J, comment bien briefer tous les prestataires en amont. Quand t'as pas de wedding planner ou pas de coordinatrice, du coup, c'est quand même bien de pouvoir tout préparer pour être tranquille le jour J. Mais l'idée, en fait, l'idée de mon compte Insta, c'était... Bon, alors bien évidemment, maintenant, c'est de proposer des choses qui sont payantes, à petit budget pour que ce soit abordable pour les futurs mariés. Mais c'est en fait de les décomplexer et de les déculpabiliser dans leur organisation de mariage. Parce que, alors, c'est incroyable ce que les femmes, en particulier les femmes, parce qu'il faut bien le dire, c'est malheureusement encore trop souvent elles qui prennent la charge de l'organisation du mariage. Elles ont envie de faire plaisir à tout le monde, c'est logique, hein, mais parfois elles en perdent un peu de vue l'essentiel qui est le fait que elles s'engagent, quoi. Si à la fin, j'ai lu cette phrase il y a peu de temps, je sais plus où, si à la fin de la journée t'es mariée à la personne que t'aimes, ton mariage est réussi. Mais c'est vrai en fait. Et les futurs mariés se mettent beaucoup, beaucoup de pression sur plein de choses qui sont des petits détails qu'elles ne verront même pas le jour J et que personne ne verra. Et en fait, alors je dis pas de faire ça à l'arrache et que c'est pas important. Non, bien sûr que quand on organise son mariage, c'est un moment très important dans sa vie, il faut mettre du cœur, mais il faut surtout kiffer le process en fait. Parce que ton jour J, il passe en 24 heures. Donc si les 18 mois que t'as passé à préparer cette journée qui passe en 24 heures, ça a été une tannée, mais c'est l'enfer en fait. Donc si tu kiffes pas un peu le process et que t'es pas à l'aise et que tu dis pas allez, c'est un bon moment aussi l'organisation du mariage, c'est trop dommage. Parce que je le vois, les jours J, c'est vraiment, ça passe en un claquement de doigts et tous les mariés le disent, quoi. Donc voilà.
Oui, ça me fait un peu penser à, pour mettre un peu plus de piment à Noël, le calendrier de l'Avent, ça fait quand même monter un petit peu la pression et c'est exactement la même chose. C'est vrai que d'attendre, forcément que ça ajoute quelque chose à la journée le jour J.
C'est pour ça que l'attente et la préparation doivent être aussi un bon moment. C'est hyper important. Donc voilà pour les ateliers. Et puis pour aller un petit peu plus loin... Je vais sortir, je ne sais pas encore quand j'aurai eu le temps de finaliser tout ça, je vais sortir comme un e-book, un guide en fait pour trouver les bons prestataires, leur poser les bonnes questions. En fait, c'est un guide sur toute la partie recherche de prestataires qui est quand même la méga priorité dans l'organisation de ton mariage. Donc ce guide-là, il va retrouver les petits trucs et astuces pour choisir les bons prestataires et surtout toutes les questions
qu'il faut poser,
que ce soit avant de demander, pour demander un devis ou en amont d'un rendez-vous ou en préparation du jour J. Donc il y aura vraiment un recueil de toutes les questions qui concerneront peut-être pas tout le monde, mais pour le coup, qui seront vraiment le plus exhaustif possible pour rassurer, en fait, pour que les futurs mariés aient un petit cran de stress en moins.
Et cet e-book, il sera sur ton site gratuitement ou ça sera comme ta formation pour la, enfin pas la formation, mais les conseils pour la cérémonie laïque, quelque chose à télécharger pour quelques euros?
Alors là, pour le coup, l'e-book, ce sera payant. Je n'ai pas encore fixé le prix, mais l'idée, c'est d'avoir un prix hyper attractif. Donc, je pense que je serai entre 25 et 30 euros pour cet e-book. Parce que l'idée, c'est pas de rajouter de la charge à la charge, si tu veux. Ça coûte déjà tellement cher de se marier que voilà, je veux pouvoir proposer des choses qui sont accessibles et qui pourront être utilisées par le plus grand nombre. Oui, ce sera vraiment ce sera un support, un vrai support. Ce que je propose, si tu veux, en gratuit sur mon site, c'est des petites bribes. Avec pas forcément d'explications autour, pas le côté un peu coaching qui va avec. Alors là, il n'y a pas de coaching à proprement parler en vidéo ou en one-one, mais tu auras vraiment toutes les explications, tous les trucs et astuces, et ça leur permettra d'être plus serein.
Oui, alors l'idée de l'e-book, je trouve ça absolument génial, parce que moi je vois quand j'ai les futurs mariés au téléphone pour les enfants et que je leur pose certaines questions et qu'ils me disent « Ah ben on m'a jamais demandé ça » et je me demande bien comment mes confrères font pour sortir un devis sans avoir la liste des enfants mentionnant leur âge, quoi, parce qu'entre un bébé et un ado, il y a quand même une grosse différence. Bah on a vu ta partie wedding planner, ta partie formation, atelier. Est-ce que tu as d'autres choses à communiquer?
Bah écoute, pour le moment c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. La charge est déjà pas trop assez lourde. Parce qu'en fait, jongler entre l'organisation des mariages, qui est vraiment du très concret, voilà, qui mon quotidien en tant que wedding planner, il est jalonné de rendez-vous clients, d'appels prestataires, enfin des choses qui sont vraiment très très concrètes pour les orgas de mariage. Et de l'autre côté, cette partie qui est très virtuelle quand même. Tu vois, Insta, ça reste quelque chose de très virtuel. Et ça m'a vraiment. C'est pour ça que le premier atelier qu'on a fait cette semaine, ça m'a galvanisée parce que je me suis rendu compte que c'était des vrais gens, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je me suis dit, ah, oh, mais c'est tellement génial! T'as des vrais gens, en fait, derrière que t'aides, vraiment. Et ça m'a fait kiffer, vraiment. Et donc, du coup, passer de ce côté très concret avec mes futurs mariés à la partie un peu plus virtuelle d'Insta, ouais, c'est un jonglage qu'il faut faire au quotidien, parce que tu peux pas te dire dans la semaine, je fais un jour Insta, un jour. T'es obligé, en fait, d'être présent un peu tout le temps, puis t'es présent aussi un peu tout le temps pour tes mariés. T'as des mariés avec qui tu parles tous les jours. Après, bah, quand on a terminé la phase recherche de prestataire, tu leur parles peut-être moins pendant un mois, mais c'est d'autres mariés qui prennent le relais. Enfin, voilà. Donc, en fait, tu es tout le temps en contact avec tes clients, que ce soit tes vrais clients ou tes clients sur Insta, enfin, les personnes qui te suivent. Ouais, donc c'est déjà pas mal, là.
Et est-ce que tu communiques aussi sur TikTok ou LinkedIn ou Facebook?
Alors, Facebook, je pense que ma cible est plus sur Facebook. Pour le coup.
Même pour les ateliers?
J'ai pas fait le test parce qu'en fait, je me suis dit, je me focalise sur une chose que je sais faire, c'est Instagram. Facebook, j'ai quasiment pas de communauté, si tu veux, donc c'était pas forcément pertinent de repartir
À zéro.
à la conquête, en fait, de nouveaux clients, enfin de nouveaux abonnés, pour le coup. LinkedIn, c'est vraiment très pro. Donc, si tu veux, si je vais un jour sur LinkedIn, ce sera parce que je m'adresserai à une nouvelle cible qui est potentiellement les wannabe wedding planners. Donc, toutes ces personnes qui ont envie de se reconvertir, de faire ce qu'on est beaucoup à avoir fait, hein, pour le coup. Voilà, si un jour je m'adresse à ces gens-là, peut-être que je ferai aussi du coaching, j'en sais rien. C'est peut-être la prochaine étape, mais c'est pas pour tout de suite. Donc LinkedIn, c'est quand même cette population la plus, tu vois. Et puis tu vas pas sur LinkedIn pour organiser ton mariage.
Non.
Tu vois ce que je veux dire? Donc pas forcément pertinent. Et TikTok, bon, TikTok, je vais passer pour une vieille con en disant ça. J'ai 36, non, j'ai 34. J'ai 34 ans, je suis même plus capable de me souvenir de mon âge, tu te rends compte. J'ai 34 ans et je suis en train de me dire. TikTok, c'est vraiment que pour les petits jeunes, quoi.
Et ça, c'est vraiment une idée reçue parce qu'effectivement, c'est loin d'être les tout jeunes qui vont sur TikTok.
C'est vrai. Écoute, si je devais reposter tout ce que je fais sur Instagram, sur TikTok, En me rajoutant ça, je pense que j'aurais pas assez d'heures dans ma journée en réalité. Si un jour, en fait, Instagram, ce qui est bien avec ce réseau, c'est que t'as le côté réseau social, donc t'as du monde dessus. T'as le côté visuel, en fait, avec toutes les photos de mariage, tout ce que tu peux présenter. Donc t'as un côté très esthétique, beaucoup plus que sur TikTok, parce qu'en vrai, quand tu regardes TikTok, c'est pas ouf en termes d'esthétique. Et du coup, tu as beaucoup de futurs mariés qui vont sur Insta parce que tu as ce côté esthétique. Donc, c'est des gens que je peux aussi acquérir parce qu'ils sont là pour le côté esthétique, pour leur donner, moi, le côté vidéo, le côté valeur, tips, astuces, etc.
Alors là, j'ai une question qui n'a absolument rien à voir avec ce dont on parlait, enfin si un petit peu quand même, c'est justement par rapport aux photos. Tes mariés te donnent généralement souvent droit à l'image pour pouvoir poster leurs photos sur Insta?
Oui, alors ça fait partie de mon contrat. Donc dans mon contrat, j'ai une clause qui stipule qu'en passant ce contrat avec moi, ils sont OK pour que je diffuse leurs photos de mariage. Quand je reçois les photos de la part du photographe, je redemande bien évidemment à mes mariés si j'ai toujours leur autorisation, même si voilà, c'est dans le contrat, bon, je préfère toujours redemander. J'en ai certains qui me font parfois des sélections. Tu vois, parce qu'ils veulent pas que j'ai accès à la galerie, ce que je comprends tout à fait. Et puis je demande au photographe s'il est d'accord. Mais dans tous les cas, quand tu postes une photo, premièrement, tu mets toujours le crédit
Du
du
photographe
photographe et
et du
également,
lieu.
ouais, et également des prestataires qui étaient là ce jour-là. Si par exemple, c'est une photo des préparatifs, tu as la mariée, la make-up artiste, tu vas mettre la make-up artiste. Tu vas pas mettre une photo d'elle sans l'accréditer. Et puis, moi, je mets rarement quand même des photos avec les invités. Jamais de photos d'enfants, bien sûr. Donc, c'est les photos des mariés, les photos du décor et les photos des prestataires.
Ok, bon, mais si j'ai oublié une question, mais que tu veux ajouter quelque chose, je te laisse les derniers mots.
Eh bien, écoute, ça me paraît assez exhaustif. Je suis présente sur Instagram avec Les Inséparables Mariages, mon site internet Les Inséparables, et puis, je suis très ouverte aux discussions en DM, par mail. J'aime bien discuter avec les futurs mariés, même si ce ne sont pas des clients à aucun niveau, tout simplement parce que déjà ça me fait plaisir d'aider. Et en plus, parce que moi, ça me fait des insights, si tu veux, ça me donne de la matière aussi pour pouvoir continuer à proposer un contenu qui est toujours plus qualitatif et toujours plus en phase
La
avec les
réalité.
besoins des mariés et avec la réalité. Ouais. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit.
Eh bien, merci infiniment, Manon, et puis à très vite sur le terrain ou tous les jours sur Insta. Merci.
Super.